Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait face à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère, après les récits de mon ami. Il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré, sans se présenter. « Vous savez qui je suis, et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée et ordinaire était impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en ira à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisque malheureusement il n'y avait pas ici de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à 10 minutes le temps d'intervalle entre deux coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Centovic. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'en fut aussitôt dans le fond de la pièce à la place qu'il avait choisie pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien sûr comme elle devait se terminer. En 24 coups, nous étions déjà complètement battus. Quoi d'étonnant est-ce qu'un champion mondial ait aisément raison d'un tournement d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens? Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Centovic nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment, en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. Et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux, en se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisons, ou bien nous encourager d'un mot aimable, mais non. La partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça « mat » sans plus, puis resta là, immobile et muette, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvu de moyens devant des épidermes aussi épais, et je m'étais déjà levé, signifiant par là que, pour ma part du moins, j'estimais terminer ce divertissement, lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis McConnor dire à côté de moi d'une voix tout enrouée « Revanche !» Je fus presque épouvanté de son ton provoquant. En ce moment, McConnor faisait plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Centovic, ou simplement son ambition maladive et irritable? Toujours est-il que McConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette femme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulette quand, pour la 6e ou 7e fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, je fus certain que cet amour-propre forcené allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse, en simple ou en doublé, contre Centovic, jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, McConnor serait pour lui une mine d'or dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Centovic demeura impassible. « Comme il vous plaira, » répondit-il poliment. « C'est à ces messieurs de prendre les noirs. » La deuxième partie débuta comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eût volontiers donné 1000 dollars pour avoir le plaisir de crier « Mat !» à son peu galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant. Et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Centovic le signal qu'il rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi, peu à peu, au 17e coup. Et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage. Car chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. À l'unanimité, nous soupçonnions Centovic, qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis, voyait évidemment beaucoup plus loin que nous, de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà MacConnor poussait le pion, lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, passe là !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite. « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1 et vous ripostez avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Aletchine et Bogoljubo lors du grand tournoi de Pistian en 1922. » Surpris, MacConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé comme nous tous cet homme qui semblait tomber du ciel tel un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient mat, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un champion concurrent de Chentovic, se rendant au même tournoi. Son arrivée, sa soudaine intervention à un moment aussi critique, tenait presque du miracle. Ce fut MacConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous » murmura-t-il fort excité. « N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour, C8-C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision autant que la rapidité de ses calculs était déconcertante. On eût dit que cet homme lisait ses coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire grâce à lui partie nulle contre un champion du monde tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. MacConnor lui demanda encore une fois. « Déplacer le roi de G8 en H7 ?»« Certainement, il faut éviter l'adversaire. » MacConnor obéit et nous frappâmes sur le vert. Chentovic s'avança vers notre table de son pas tranquille et apprécia la riposte d'un coup d'œil. Puis, il poussa un pion de H2 en H4 sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu qui aussitôt nous chuchota vivement. La tour avançait la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé d'abord de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3 D5 sans vous soucier de son pion libre. Et voilà la situation rétablie. Cette fois, en avant tout, il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il eût parlé chinois. Cependant, MacConnor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait, sans réfléchir davantage. Le vert tint à nouveau, rappelant Chentovic. Pour la première fois, il ne joua pas aussitôt. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue. Puis, il fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé et s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Chentovic leva les yeux et examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de bornes. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Chentovic nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour frapper sur le verre. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion, qui avait toujours joué debout, hésita, et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret et pesamment sur son siège. Qu'importe, il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux sous les sombres paupières. Et il faisait un tel effort de réflexion qu'il en ouvrait insensiblement la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre ami murmura aussitôt. « Bien joué, il ne se compromet pas. Mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir, il le faut, pour obtenir partie nulle. Et alors rien ne pourra plus le sauver. » MacConnor obéit. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres, réduits depuis longtemps au rôle de comparse inutile, ne comprenions rien du tout. Après 6 ou 7 coups, Chentovic resta longtemps songeur, puis il déclara « Partie nulle ». Il y eut un instant de silence complet. Dans le fumoir, on entendit tout à coup le bruit des vagues. La radio du salon nous envoyait un jazz. Chaque pas résonna distinctement sur le pont. On perçut jusqu'au léger sifflement du vent passant par les interstices des fenêtres. Le souffle coupé par la rapidité de l'événement, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie à un champion du monde? McConnor se renversa brusquement en arrière et poussa un « Ah !» joyeux. De mon côté, j'observais Jentovic. Il m'avait semblé qu'il pâlissait déjà un peu pendant les derniers coups. Mais il savait se contenir. Toujours raide et l'air indifférent, il demanda d'une voix neutre en repoussant de la main les pièces de l'échiquier « Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie ?» Il posait la question de manière purement objective, en homme d'affaires. Mais en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveteur. Comme un cheval sait distinguer et reconnaître un meilleur cavalier à son assiette, Jentovic devait avoir reconnu son véritable adversaire au dernier coup de la partie. Involontairement, nous avions suivi son regard et, un peu tendu, nous tournâmes les yeux vers l'étranger. Pourtant, sans lui laisser le temps de réfléchir ou seulement de répondre, McConnor lui cria, débordant d'orgueil triomphant, « Naturellement, mais vous allez jouer seul contre lui, vous seul contre Jentovic. » Un fait surprenant se produisit alors. L'étranger, qui était resté bizarrement absorbé par l'échiquier déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les yeux fixés sur lui et en s'entendant interpeller avec un tel enthousiasme. Son visage parut troublé. « Jamais de la vie, messieurs, » bégaya-t-il visiblement confus. « C'est tout à fait impossible. Je ne serais entré en considération il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois maintenant seulement combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un importun qui ne recommencera pas, je vous assure. » Et avant que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce.
« Cela ne se passera pas ainsi, » tonna le bouillant McConnor en frappant du poing sur la table. « 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, c'est tout à fait impossible. Il combinait chaque coup, chaque riposte, au moins 5 ou 6 coups à l'avance. Personne ne peut jouer ainsi tout de go. C'est absolument impossible, n'est-ce pas ?» Il s'était tourné sans le vouloir vers Jentovic en disant ces derniers mots, mais le champion du monde resta impassible.
« Je ne puis en juger. Il est certain que monsieur a joué de manière un peu étonnante et non sans intérêt. C'est pourquoi je lui ai intentionnellement laissé une chance. »
Tout en parlant, il se leva et ajouta négligemment de sa voix neutre.
« Si l'un ou l'autre de ces messieurs désirait faire une autre partie demain, je suis à leur disposition dès 3 heures de l'après-midi. »
Nous ne pûmes réprimer un léger sourire. Nous savions tous que Jentovic n'avait pas eu à se montrer généreux envers notre sauveteur inconnu et que sa remarque n'était qu'un naïf subterfuge servant à cacher sa mésaventure. Notre désir d'abaisser un orgueil aussi invétéré s'en accrut. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes saisis soudain d'une humeur sauvage et batailleuse à la pensée que sur ce bateau, en plein océan, Jentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. À cela s'ajoutait encore l'attrait du mystère dans lequel était apparu notre héros, juste à l'instant critique, et le contraste de sa modestie presque excessive avec l'imperturbable arrogance du professionnel. Qui était cet inconnu ? Le hasard nous avait fait-il découvrir un nouveau génie de l'échiquier? Ou bien était-ce un maître déjà célèbre qui nous cachait son nom pour un motif impénétrable? Nous débattions ces questions avec la plus grande animation, et les hypothèses les plus hardies ne l'étaient point encore assez pour concilier la timidité de l'étranger et sa surprenante confession avec son évidente connaissance du jeu d'échecs. Sur un point cependant, nous étions unanimes. Nous ne voulions à aucun prix renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous convînmes de tout tenter pour décider l'inconnu à jouer une partie contre Jentovic le lendemain, et McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit en interrogeant le steward que l'étranger était autrichien, et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié sans tarder. Il lisait, tendu sur sa chaise longue. Avant de l'aborder, je le considérais longuement. Sa tête anguleuse s'appuie au coussin dans une pose un peu lasse, et l'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais, je ne sais pourquoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchai de lui et se présenta. Son nom, qui me fut aussitôt familier, était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Je me souvins qu'un très proche ami de Schubert l'avait porté, ainsi qu'un des médecins du vieil empereur. Lorsque j'eus fait part au docteur B de notre désir qu'il accepta le défi de Centovic, il sembla très déconcerté. Je découvris qu'il n'avait pas eu la moindre idée qu'il jouait contre un champion, et même contre le champion le plus célèbre de l'époque. Ce fait parut l'impressionner beaucoup, car il me demanda plusieurs fois et avec insistance si j'étais sûr de ce que j'avançais et si son adversaire était vraiment un maître aussi connu. Cela facilita ma tâche, comme je le vis bientôt. Cependant, je sentis en lui tant de délicatesse que je jugeai plus à propos de ne rien dire des risques matériels que MacConnor prenait à sa charge en cas de défaite. Après un long moment d'hésitation, M. B. se déclara prêt à disputer une partie, mais non sans m'avoir expressément prié d'avertir encore une fois ces messieurs qu'il ne devait pas fonder de trop grands espoirs sur ses talents. « Car, ajouta-t-il avec un sourire pensif, j'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Croyez-moi, c'était sans aucune fausse modestie que j'affirmais n'avoir pas touché un échiquier depuis le temps où j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, et je n'étais même alors qu'un joueur insignifiant. » Il disait cela avec tant de simplicité que je ne pouvais douter le moins du monde de sa sincérité. Néanmoins, je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement de ce qu'il pût se rappeler si exactement les tactiques des différents maîtres qu'il avait cités. Il devait s'être beaucoup intéressé aux échecs, théoriquement du moins. Et à ces mots, M. B. eut nouveau son étrange sourire songeur. « Si je m'en suis occupé, Dieu seul sait à quel point ce que vous venez de dire est vrai. Mais la chose se produisit dans des circonstances tout à fait particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée et qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure. » D'un geste, il m'avait invité à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne. J'acceptai de bon cœur. Nous étions seuls. M. B. ôta ses lunettes, les posa et commença.